Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 17h à Paris, 15h en temps universel et 18h à Gaza. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. À la une, alors que les tirs meurtriers de l'armée israélienne s'enchaînent aux abords des points de distribution d'aide alimentaire à Gaza, jour après jour, la défense civile palestinienne tente de venir en aide aux victimes des bombardements. Témoignage de l'un de ces secouristes gazaouis épuisés dès le début de ce journal. Aux Pays-Bas, la coalition au pouvoir était déjà fragile. Geert Wilders lui a donné le coup de grâce. Le parti du leader d'extrême droite claque la porte et fait chuter le gouvernement. Avant la conférence de l'ONU à Nice sur l'océan la semaine prochaine, des chercheurs du monde entier planchent déjà dans la ville du sud de la France pour fournir aux politiques une expertise approfondie sur la santé des fonds marins. Selon la défense civile de Gaza, 27 personnes ont été tuées après des tirs israéliens dans le sud. L'armée affirme avoir ouvert le feu contre des suspects lors d'un mouvement de foule près d'un site de distribution d'aide alimentaire. Dans une enclave palestinienne exsangue, la défense civile est en première ligne chaque jour, chargée des services d'urgence. Elle est liée à l'autorité palestinienne. Ses sauveteurs tentent de venir en aide aux victimes des bombardements israéliens. À Gaza, Rami El-Merari, avec Sami Bourelifa à Jérusalem, nous dresse le portrait de l'un de ses membres, un jeune pompier gazaoui, un témoignage poignant.
Abdallah El-Majdalawi a 25 ans. Il a passé les 5 dernières années dans la défense civile de Gaza.
Depuis le début de la guerre, j'effectue entre 2 et 4 interventions chaque jour. Mais il y a des interventions plus dures que d'autres et qui restent gravées dans votre mémoire.
Comme ce jour de février 2024, l'armée israélienne est déployée dans le quartier Al-Zaytoun à Gazaville. Après 12 jours, elle se retire. La défense civile se rend sur place.
Il y avait plein de cadavres dans les rues. On les a ramassés un par un. Et puis quelqu'un nous a dit « Vous voyez cette maison bombardée ? Elle était habitée. » J'y suis allé et j'ai crié « Est-ce que quelqu'un m'entend ?» J'ai entendu comme un murmure. J'ai demandé à tout le monde de se taire. Il y avait effectivement une personne en vie.
Un jeune garçon qui s'appelle Ahmed Naïm.
Avec mon binôme, nous avons commencé à creuser pour atteindre le petit garçon. Il y avait des cadavres en décomposition sous les décombres. Cela faisait 12 jours qu'ils étaient là. L'odeur était insupportable. Et le petit a survécu dans ces conditions. Je retire un dernier cadavre. Le petit était là, juste en dessous. Il était squelettique. Vous voyez ces images d'enfants lors de la famine en Somalie dans les années 90 ? C'était pareil.
Le jeune secouriste est sous le choc. C'est son collègue et binôme, Ali Omar, qui prend le relais et sauve le petit garçon. Comment vivre après un tel traumatisme ? Abdallah El-Majdalawi n'est pourtant pas au bout de ses peines.
Quelques temps plus tard, en pleine intervention, nous avons été bombardés. Ali, mon binôme, était à l'étage du dessus. Je suis monté et là, je n'ai trouvé que sa main. J'ai su que c'était la sienne. C'était une main dans un gant de secouriste de la défense civile. Ali a été projeté du 3e étage. J'ai retrouvé son corps au sol. Ça a été l'expérience la plus dure que j'ai jamais vécue.
Aujourd'hui, fatigué, épuisé, tout ce que souhaite le jeune sauveteur secouriste, c'est de pouvoir dormir sans faire de cauchemar et ne plus vivre dans ce stress permanent. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bouklifa, Jérusalem, RFI.
Moscou accuse Kiev d'être à l'origine des explosions ayant provoqué le week-end dernier l'effondrement de 2 ponts et des accidents de train dans les régions de Koursk et de Bryansk. Pas de commentaire en revanche sur l'attaque massive de drones ukrainiens actionnés du territoire russe vers des cibles militaires sensibles. Moscou revendique en revanche la prise d'un nouveau village en territoire ennemi au lendemain de pourparlers directs à Istanbul, quasi infructueux. La correspondance à Moscou, Danis.
Explosion sur les lignes ferroviaires et attaque massive de drones jamais vues. À une question qui liait les deux attaques, pourtant d'une ampleur et d'un impact totalement différents, celle de Kiev sur les aérodromes militaires russes étant tout particulièrement du jamais vu, le porte-parole du Kremlin a répondu avec une tactique bien éprouvée, des éléments de langage d'un classicisme bien connu. Le président est informé et il faut attendre le résultat des investigations, pas un mot sur une éventuelle réponse militaire. Sur les échanges directs Moscou-Kiev, Kiev de la veille. Dimitri Peskov s'est en revanche montré plus bavard, plus tranchant aussi que ces dernières semaines. Il serait erroné de s'attendre à des percées immédiates, a-t-il dit. Moscou, qui se sait accusé d'enliser à dessein les échanges, souligne encore une fois qu'à ses yeux, je cite encore, « le règlement du conflit est extrêmement complexe ». Quant à une rencontre tripartite Trump-Poutine-Zelensky, la position de la Russie n'a pas bougé d'un iota, c'est non. Pour celle entre Trump et Poutine, là aussi, rien ne change. La porte est ouverte. En tout cas, le Kremlin la souhaite. Agnès El-Jabri, Moscou, RFI.
En Corée du Sud, la victoire d'Lee Jae-myung est large. Il promet déjà de ne pas décevoir les attentes du peuple. Le candidat de centre-gauche est arrivé en tête du scrutin présidentiel à un seul tour. Selon un sondage sorti des urnes, organisé par les principales chaînes de télé, il l'emporte avec plus de 51% des voix contre 39% rival conservateur. Les électeurs se sont massivement rendus aux urnes. En Pologne, une cohabitation musclée s'annonce pour consolider sa position. Le Premier ministre pro-européen Donald Tusk va de nouveau demander la confiance du Parlement le 11 juin prochain. Le bras de fer commence avec le nouveau président nationaliste Karol Nawrocki, opposition très opposée. Aux Pays-Bas, les électeurs vont retourner aux urnes, certainement après l'été. Le gouvernement est tombé. Le dirigeant d'extrême droite a mis ses menaces à exécution. Geert Wilders a annoncé que son parti claque la porte, quitte la coalition au pouvoir et fait donc chuter l'équipe gouvernementale. Il a justifié sa décision par le refus de ses partenaires de stopper l'accueil des demandeurs d'asile. Julien Chavanne.
Geert Wilders avait promis la politique la plus stricte jamais mise en place. Il veut tout simplement fermer les frontières aux demandeurs d'asile. Mais le leader nationaliste et xénophobe trouvait que ses partenaires de la coalition au pouvoir n'allaient pas assez loin pour restreindre l'asile aux Pays-Bas. Alors ce matin, il annonce sur X le départ du PVV, du gouvernement, avant de prendre la parole devant la presse.
Je ne peux donc rien faire d'autre que de dire que nous retirons notre soutien à ce gouvernement. Je viens également d'informer le Premier ministre que je retirerai les ministres du PVV du gouvernement et que nous ne pouvons plus assumer la responsabilité de tout cela. J'ai signé pour une politique d'asile la plus stricte et non pour la chute des Pays-Bas. Notre responsabilité envers le gouvernement prend donc fin maintenant.
De nouvelles élections vont donc être convoquées et c'était peut-être ça le véritable objectif de Geert Wilders et de sa posture jusqu'au boutiste. Il a vu les autres formations le rattraper dans les sondages et il espère toujours être Premier ministre, mais sans aucune garantie. Le prochain scrutin s'annonce très serré et à droite, on dénonce une décision irresponsable. Certains craignent déjà que ça n'ouvre la voie au parti de gauche.
En France, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête sur le meurtre d'un Tunisien dans le Var. C'est une première concernant des investigations sur un homicide raciste lié à l'ultra-droite. Le suspect auteur de vidéos racistes avant et après l'homicide pourrait avoir commis ce meurtre avec une volonté de troubler l'ordre public par la terreur. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan se tient à Nice la semaine prochaine, co-présidée par la France et le Costa Rica. Une conférence que les organisateurs ont voulu placer sous l'égide de la science. Alors en amont, à partir d'aujourd'hui, un peu plus de 2000 scientifiques se réunissent pour un grand raout, des chercheurs venus de quelques 130 pays. Pauline Glaise.
One Ocean, un océan et une multitude de disciplines convoquées pour comprendre les enjeux autour de ce qui recouvre 70% de notre planète. Une dizaine de thématiques sont au programme, climat, biodiversité, l'océan profond ou encore les ressources marines pour ne citer qu'elles. Les scientifiques participeront à près de 500 présentations orales. Surtout, les chercheurs remettront leurs recommandations aux chefs d'État et de gouvernement, car l'objectif de ce congrès, c'est de fournir aux décideurs politiques une expertise approfondie sur la santé de l'océan. Et pour un effet de long terme, plusieurs initiatives sont également lancées ou renforcées au cours des 10 prochains jours. Pour aider les États à mettre en œuvre leurs engagements, l'AIPOS est en train d'être officialisé. Le panel international pour un océan durable fournira bientôt des synthèses de connaissances sur une question précise posée par un État. Par ailleurs, un réseau international d'universités marines va voir le jour. Cela doit entre autres permettre de favoriser l'interdisciplinarité des recherches.
Un mot de tennis et la suite des quarts de finale en ce moment à Roland-Garros. La numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka et la Polonaise Iga Swiatek se sont imposées en 2-7. Bonjour Nathalie Amar.
Bonjour Karine Bellicha et bonne soirée à vous. Il est 17h10 à Paris, voici sur le Pont des Arts.